Bonjour à tous, nous sommes toujours à Vesoul en ce vendredi 13 février 2015, une journée cinématographique sous le signe du fantastique, peut-être une première pour le festival, dans la mesure où nous sortons du Pensionnat, un film d'horreur thaïlandais, et où nous avons eu la chance de voir cet après-midi Chantali, qui nous a été présenté comme le premier film fantastique en provenance du Laos. Jérémy, de quoi parle ce film ?
Donc Chantali, ça parle d'une jeune fille qui est malade du cœur, comme sa mère qui est morte, et donc elle est séquestrée par son père en quelque sorte parce que il a peur qu'il lui arrive quelque chose si elle quitte le domicile familial. Donc elle se retrouve à errer sans savoir quoi faire dans son appartement, et donc à partir de là, elle va commencer, à cause de ses médicaments, à voir certaines choses dans la maison et à se poser des questions sur les vraies raisons de la mort de sa mère. Voilà. Donc, le film de Matido, qui, semble-t-il, selon Bastien, c'est la grande amie de Bastien, puisqu'il a couché sur son canapé, etc. Voilà.
Et le film a eu quelques interruptions, on a appris plein de choses sur son chien, sur sa vie, sur l'appartement dans lequel le film a été filmé.
Et donc je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Il y a certaines scènes qui fonctionnent assez bien. C'est pas de la grosse tension, c'est pas du jump scare, on n'est pas dans la terreur pure, quoi, mais il y a un petit climat angoissant. C'est toujours filmé dans la pénombre. On est toujours un petit peu dans un climat un peu angoissant. Ça m'a plu. Après, techniquement, c'est pas toujours réussi. On est un peu dans l'amateurisme parfois. Mais c'est pas toujours bien joué aussi. Mais ça fonctionne sur certains moments. Surtout la dernière partie du film que j'ai beaucoup aimé. Victor, on va développer en discutant là-dessus.
Oui, justement, moi je trouve pas qu'il y ait vraiment un amateurisme au niveau technique. Effectivement, on sent le manque de moyens, mais elle optimise quand même par exemple l'espace, hein, c'est un huis clos, ça se passe uniquement dans une maison. Il y a quatre acteurs qui effectivement sont un peu inégaux. L'actrice principale, qui semble-t-il est une chanteuse ou une idole là-bas, et pas forcément ultra convaincante dans toutes les scènes, mais néanmoins il y a une bonne optimisation de ces moyens qui sont de toute évidence très réduits, et surtout ça repose sur des idées assez simples, des idées de mise en scène ou de jeu d'éclairage et de lumière. Par exemple, il y a cette idée dans la dernière scène de présenter le monde des morts comme un espace où il y a une lumière perpétuelle qui est tout le temps suréclairé, oui. Alors qu'au contraire, le monde des vivants, vu du point de vue du monde des morts, est un espace ténébreux, presque sinistre, assez glauque. Et donc il y a une inversion de ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des films fantastiques. Et ça, par exemple, c'est plutôt une bonne idée, voilà, pour un film fantastique.
Et puis, ouais. Vas-y, je te laisse finir.
Non, mais je vais terminer. Et
puis j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont elle joue des coupes, en fait. Elle fait vraiment, c'est du montage cut. C'est assez intéressant, ça donne un côté assez percutant, et ça fonctionne tout de suite, on est pris dès le début. En fait, elle fait ça dès le début, et je trouve ça assez efficace, en fait.
Donc moi, c'est ce qui m'a perdu, en fait, c'est toutes ces ellipses un peu sans réelle fluidité, en fait, qui m'ont vraiment perdu, et c'est à partir de là que je suis vraiment, en fait, jamais rentré dans l'histoire. Et ce que je disais hier, c'est que j'avais peur un peu que le film ait un peu des lacunes, entre guillemets, mais pas seulement techniques, mais un peu au niveau narratif, dans la façon de raconter une histoire ou la façon de faire ressentir les choses par rapport aux enjeux. Et j'ai un peu retrouvé ça, malheureusement. C'est pour ça que je suis vraiment, je suis jamais rentré dans l'histoire. Même s'il y a des bonnes idées, même si je suis d'accord, le jeu sur les lumières, ce que ça raconte au final. C'est vraiment la façon de la raconter qui m'a pas plu du tout, moi, donc voilà.
Donc pour le coup, j'ai trouvé ça très moderne, justement. Le film est à la limite du film conceptuel par moment. Et non seul, par exemple, sur ce jeu dans les ellipses, il y a beaucoup d'écrans noirs. Enfin, on passe d'une scène, elle est interrompue par un écran noir, la bande-son reprend, et une autre scène commence, et on sait plus trop dans quel...
Il y a un côté flottant comme ça, où on est un peu perdu.
Encore une fois, une chose qui me gêne, c'est que c'est vrai qu'il y a des idées, il y a des tentatives pour amener le film vers quelque chose de unique et de propre à la réalisatrice, mais en même temps il y a un côté un, y a un côté un peu trop scolaire avec
c'est par exemple c'est un premier film
oui voilà c'est un premier film et ça se ressent énormément par moment, c'est-à-dire que l'utilisation de la musique qui passe du piano quand elle ouvre la boîte avec les photos et puis d'un seul coup la musique inquiétante parce qu'elle a entendu un truc tout de suite et la musique qui se coupe.
Bah oui non mais c'est un procédé qu'on a vu.
Ouais mais là ça passe pas très bien je trouve.
Mais pourquoi ça passe pas très bien?
Enfin moi pour moi ça m'a gêné, c'est je l'ai ressenti comme ça quoi, ça m'a gêné donc.
Non mais si t'avais vu ça dans un film américain est-ce que ça t'aurait gêné?
Non, pas forcément.
Bah mais... oui, mais...
Ça dépend, hein, toujours pareil, c'est la façon dont la scène est amenée, le montage est fait, je sais pas, il y a quelque chose qui... Enfin, ça m'a gêné, il y avait toujours un côté gênant. Alors après, c'est peut-être voulu par la réalisatrice, et c'est peut-être ce qui...
Mais voilà, mais au contraire, je trouve qu'elle garde une certaine logique formelle, déjà, de...
Ah, tout le long, oui, tout ça, le long. C'est sûr. Oui.
Et
après,
voilà,
c'était gêné dès le début, forcément.
Le cut, là, elle le fait... Après, c'est systématique, mais au moins, elle garde sa ligne de conduite, et... Et je trouve qu'elle le fait bien. Et en plus, il y a une progression. Il y a une progression dans la... Et l'étrange qui arrive au fur et à mesure et qui a envahi après tout l'écran.
Je vais vous expliquer, en fait. Ce sera simple. Moi, personnellement, quand je regarde un film fantastique ou un film d'horreur ou un film qui joue sur l'ambiance, j'aime beaucoup que les scènes, les vraies scènes, les scènes prennent longues, qui prennent leur temps vraiment d'installer par scène... Et là, je trouve que justement que ça va très vite, quoi. Comme tu dis, il y a beaucoup de coupes, tu passes d'une scène à une autre très vite. Parfois, tu as une scène qui dure à peine 10 secondes ou 15 secondes et tu es tout de suite...
Mais parce que c'est pour restituer, ça dure pas 15 secondes déjà, je pense pas.
Ah, il y a certaines scènes.
Oui, mais c'est pour restituer une idée de répétitivité aussi d'elle, de sa vie.
Ouais, le problème, c'est que c'est aussi très répétitif.
Et les scènes peuvent continuer d'ailleurs, parce qu'il y a ce jeu sur les coupes. Une scène
il y a
commence,
un montage, c'est vrai, parallèle par moment. Voilà, il y a les flashbacks et tout ça.
Il y a un jeu sur le montage qui est assez intéressant. Et elle peut continuer.
C'est un peu brouillon.
Et là,
en fait,
on se perd un peu comme le personnage se perd. Moi, j'ai trouvé que c'était.
Ouais, c'était assez mais en fait, plus j'en parle, et plus je trouve que c'était vraiment. Au fond, c'était pas mal du tout, en fait.
Et pour conclure, parce qu'il faut que je le dise quand même, il y a certainement le meilleur chien acteur de l'histoire du cinéma dans ce film, qui est incroyable sur les scènes d'angoisse. Il a peur, il est parfaitement dirigé. Mm. Souvent, quand il y a des animaux, on a l'impression qu'ils sont conscients de l'équipe technique qu'il y a derrière, parce qu'on les dirige. Mm. Et là, pas du tout.
Je pense que c'est parce qu'il est chez lui, en fait. Il est chez lui, le pépère, donc je pense qu'il est bien et vraiment une performance incroyable.
C'est un autre problème du film, c'est que je suis pas très fan.
Le chien, c'est pas un problème.
Non, pas le chien. Le chien
c'est
est génial.
Gros mais, point positif.
Mais le décor de la maison est un peu impersonnel aussi. C'est vraiment
c'est sa maison à Matido.
Ouais, mais voilà quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un décor de cinéma. Pour moi, c'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est moi qui tourne un court métrage dans ma maison parce que j'ai pas trouvé autre chose quoi. Tu vois, c'est un peu ça.
Oui, mais du cinéma, ça se fait pas. Ça peut se faire partout quoi. Du cinéma, c'est pas. Tu veux que ça soit fait en studio avec des effets spéciaux de malade.
Elle donne pas. Le décor n'est pas vraiment un personnage du film.
Mais ils ont pas de budget là. Ils ont là le.
Même sans budget, tu peux faire d'un décor un vrai personnage du film. Là, c'est pas le cas pour moi.
À mon avis, c'est le cas justement. Parce qu'il y a ce côté effectivement où elle optimise ses moyens et donc elle utilise sa maison. Et après, il y a une sensibilité extrêmement personnelle qui est liée au fait qu'elle tourne chez elle. Ça, on le sait pas forcément, mais c'est quelque chose qu'on sent dans le.
Et puis elle joue quand même de son environnement. Il y a le petit hôtel là qui est sur le côté, qui revient toujours, qui prend son importance au fur et à mesure. Il y a la grille de la maison qui sert de passerelle entre le monde extérieur et justement l'enfer et le purgatoire quoi, l'enfer et le et ce qu'il y a après on sait pas ce qu'il y a quoi, donc je trouve que c'est assez intéressant, elle joue de ça et
je suis complètement d'accord, c'est un des trucs les plus intéressants du film, mais ça veut pas dire forcément que c'est la c'est juste la maison en fait qui donne la façon de enfin le décor en lui-même quoi.
Mais c'est une maison quoi, c'est une maison que tu retrouves dans n'importe quel film. Mais là, je trouve qu'elle s'en sert bien parce qu'il y a...
Mais c'est un plan personnel, quoi. C'est un peu...
Mais non, justement, il n'y a pas plus personnel que sa maison à elle, quoi.
Ouais, mais justement, moi, j'ai pas cette impression, quoi, que c'est...
Non, ce qui te dérange, je pense que c'est... ça fait au movie un peu. C'est ça qui te dérange. C'est que tu as l'impression que c'est ça. Elle le fait un peu à l'arrache et toi, ça te dérange. Tu préférais qu'elle l'ait tournée dans une maison qui soit exprès construite pour le film et qui soit...
Et si on te disait...
On revient au budget, mais...
Et si on te disait qu'elle avait reconstruit minutieusement sa maison dans un studio de cinéma.
Enfin là je vois pas trop le rapport
mais, non, c'est mais si mais parce que j'ai ouais
ah, voilà
ok
j'ai pas trop aimé quoi.
Nicolas, comme tu n'as pas aimé Chantalie, donc que tu as vu cet après-midi, est-ce que tu as pu te rattraper avec le film One Summer que tu as vu en compétition ce soir à 20h30?
Et ben non, puisque c'est encore pire. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, vraiment, mais vraiment rien d'intéressant. Enfin, c'est le film d'auteur chinois typique qui n'apporte vraiment rien d'intéressant, qui essaye de...
Est-ce que tu peux nous donner l'argument?
Entre guillemets, c'est le mari donc d'une femme qui du jour au lendemain est arrêté la police et on sait pas trop arrêté par la police et on sait pas trop pourquoi. Et donc elle va essayer, ils ont une fille, et elle va essayer de s'occuper de sa fille en même temps de comprendre pourquoi son mari est arrêté, pourquoi il peut pas être libéré. Et donc voilà, donc le film en fait organise son suspense autour de ça, la raison de l'arrestation, en le mettant en relief par rapport au système judiciaire chinois, à la politique chinoise et tout ce qu'on connaît par rapport à la Chine. Et donc à travers ça, on sent que oui, la réalisatrice veut raconter, veut dénoncer un peu ce système judiciaire très, entre guillemets, très restrictif, quoi, et pas toujours très clair sur la façon dont les gens sont arrêtés pour des raisons un peu, des fois, un peu exagérées. Et donc voilà, donc en gros, la réalisatrice essaye de distiller cette réponse tout le long du film, pourquoi il a été arrêté, et à travers ça, il y a une dénonciation donc, de ce système. Donc ça aurait pu être intéressant, mais c'est toute la façon dont le film est fait. C'est-à-dire que voilà, donc c'est des longs plans sur des acteurs pas forcément très, très inspirés, mutiques, qui n'expriment pas grand-chose. C'est un film qui part un peu dans tous les sens, avec plusieurs personnages, plusieurs histoires qui s'entremêlent. À un moment, on lâche complètement parce qu'on finit par en avoir marre, quoi. On ne comprend pas trop où elles vont venir. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait vraiment quelque chose à faire dans la dénonciation et au final on s'en fout parce qu'on lâche un peu le film en cours de route, quoi.
Donc One Summer de Yang Yishu, un premier film qui n'est pas forcément très recommandable. Voilà, bon, on verra si on en reparle après, une fois que les prix seront donnés. A priori non, d'après ce que tu dis.
Bah, j'espère en tout cas que ce ne sera pas ce film là, oui.
Petit rectificatif, hier je disais que les documentaires de Vesoul faisaient passer avant tout les sujets et après tout la forme, et que la plupart étaient des reportages ou avaient une forme extrêmement télévisuelle. Heureusement, les deux documentaires qu'on a vus aujourd'hui m'ont fait complètement mentir, dans la mesure où formellement Kijima Stories et surtout Ce qui amène la tempête sont assez réussis. Jérémy, je te laisse les présenter. Est-ce que tu les as aimés, ces deux documentaires qui étaient dans la sélection des documentaires d'aujourd'hui?
Je suis du même avis que toi.
On peut peut-être commencer par Kijima.
Par Kijima Stories, ouais. Donc Kijima Stories, on va suivre une enquête d'un on sait pas qui, d'un dessinateur qui va traverser le Japon à partir d'un article dans le journal qui parle de Monsieur Kijima, donc, qui est un yakuza repenti. Et donc, ce dessinateur-là va partir à travers le Japon, voir plusieurs témoins qui vont parler de cet homme et de sa vie d'ancien yakuza, quoi. Et donc, ce qui est intéressant déjà, c'est la forme du documentaire qui mêle animation, calligraphie et puis témoignage documentaire qu'on voit tout le temps, quoi. Et ouais, je trouve ça assez fort parce que dans un premier temps, il y a cette enquête qu'on suit. Donc on se demande un peu où ça va aller. Est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'il s'en est sorti? Est-ce qu'il est mort? Qui il est vraiment? On ne sait pas. Et il y a ce deuxième point de lecture où c'est les autres, ceux qui témoignent, qui commencent eux-mêmes à s'imaginer qui est ce monsieur Kijima. Ils eux-mêmes ne le connaissent pas, même s'ils l'ont croisé, et donc on les voit qui s'imaginent. Et donc à la fin, le dessinateur, qui au fur et à mesure des rencontres dessine lui aussi les personnages, etc., et donc va nous livrer sa version de la vie de monsieur Kijima à la fin. Et donc on se retrouve avec plusieurs histoires et on ne sait pas vraiment laquelle est vraie, etc. Donc j'ai trouvé ça assez réussi. Déjà formellement, c'est très beau parce qu'il y a de l'animation. On dirait un clip de A, des fois t'es comme mille. c'est très intéressant et ça fait plaisir de voir un documentaire comme ça à Vesoul, vraiment.
Oui, justement, il y a une primauté de la forme. Je pense que tu as tout dit, notamment du fait qu'on peut se demander pourquoi dans un documentaire le stories est au pluriel alors qu'on va raconter l'histoire d'un homme. Et généralement, il y a une unicité du point de vue dans les documentaires. Et là, au contraire, on est sur cette multiplicité des points de vue et donc sur cette multiplicité des possibles fictions à partir d'une recherche documentaire qui est cet article de presse qui nous est présenté, qui parle donc de ce Yakuza repenti. Et c'est une vraie réussite formelle. Donc pour une fois, mais ce n'est pas la seule fois, puisque l'autre documentaire du jour, « Ceux qui amènent la tempête » de Guillaume Suon, qui n'a rien à voir avec Sono, nous a aussi assez passionné, Jérémy.
Oui, c'est assez passionnant. On va suivre trois personnes. Donc d'abord, on va suivre Aya, qui est une paysanne qui justement revient au Cambodge après avoir subi plusieurs mois, voire années, je ne sais plus, d'esclavage carrément en Malaisie, c'était. Donc elle a subi des viols, des violences.
Elle a été vendue comme esclave. Pendant plusieurs mois, elle a été enlevée ensuite et séquestrée et violée par un malade, et ensuite emprisonnée, parce que forcément elle était clandestine, voilà. Et elle est restée aussi plusieurs mois en prison.
Et donc elle revient chez ses parents qui l'avaient vendue. Elle revient avec un enfant né du viol. Voilà. Et donc on va suivre une autre dame, je ne sais plus son nom, qui elle a vendu son enfant. Et le meilleur, c'est ce trafiquant d'hommes qu'on va suivre et qui ressemble à un vrai méchant un vrai bad guy de films de genre asiatique, quoi, qui est assez terrifiant. On va le suivre comme ça. Qui va nous parler le plus simplement du monde de son trafic. Je vends des humains, je gagne de l'argent, mais j'adore l'argent, mais je suis un chrétien quand même. Voilà, et on va suivre cet homme-là et surtout Aya, qui on va suivre son cheminement de pensée, sa façon de gérer le traumatisme, sa façon de gérer son retour parmi des parents qui l'ont vendu. Parce que trop pauvre. Et donc voilà, ce film, il est carrément bouleversant parce que on ne peut pas, quoi. On a vu la réaction des lycéens qui étaient à la séance. On ne peut pas s'imaginer que de telles choses puissent arriver et que de telles personnes puissent continuer ces choses-là en toute impunité, parce qu'on le voit, voilà. Le marchand d'esclaves, là, il témoigne face caméra tranquillement et il sait très bien qu'il ne sera jamais inquiété de toute façon. Donc il y a un fort sentiment de révolte pendant tout le film qui nous étreint. C'est très bouleversant, quoi. Hein, Victor, si tu veux.
Non, je suis tout à fait d'accord. Ouais, je pense que t'as pas mal dit de choses sur le film. Et c'est vrai que parce que le sujet est déjà poignant. Je reviendrai un peu sur la forme, d'attaque du ouais. festival, on va dire, mais qui est un vrai film d'immersion et d'observation, qui va faire des vrais plans de cinéma, à la fois dans la manière dont les différents, les trois destins qui sont comptés sont montés, se suivent. Il y a des plans assez beaux, enfin des plans d'ensemble, donc il y a un vrai souci de mise en scène, justement.
Puis des plans qui font sens aussi, quoi. C'est pas du National Geographic, quoi. C'est vraiment c'est des plans qui font sens. Ils s'attardent des fois sur des ombres ou sur des visages meurtris. Et ça fait sens, quoi. C'est pas de l'esthétisme.
Donc voilà, je pense qu'on va clôturer un peu rapidement ce podcast, qui est un peu plus court que les autres, en indiquant juste peut-être demain, samedi 14 février 2015, jour où vous écoutez ce podcast, quels sont les films que vous allez voir, et si jamais vous avez des films que vous voulez conseiller pour dimanche, le lendemain, allez-y. Nicolas.
Bon, moi, j'ai pas de film à conseiller. Je pense que je vais aller voir. Enfin, celui que j'attends le plus demain, c'est Fantasia de Wong Chao-ho, parce que il est à l'honneur pendant ce festival. Et apparemment, c'est un bon cinéaste. Je sais pas, j'ai jamais vu de film de lui, donc j'irai vérifier ça. Voilà.
J'ai rien.
Il est fabuleux. Donc moi, je vous conseillerais pour le dimanche. Il repasse Le Soleil se lève aussi. Bon, c'est un peu tôt à 10h, mais vraiment, je l'ai vu ce soir et j'ai pris une énorme claque. C'est poétique, surréaliste. Et pourtant, ça fait sens. Il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a un vrai propos de cinéaste. Il y a plein d'idées. C'est beau, visuellement, c'est sublime. Et la musique de Hisaishi est aérienne et magnifique. Vraiment, c'est un gros chef-d'œuvre, vraiment une grosse claque. Et vraiment, faut vraiment que vous y alliez. Quoi.
Bon, je dis ça parce que je l'avais raté lors de sa sortie et de sa diffusion aujourd'hui. Et quant à moi, demain, j'attends surtout Matter of Interpretation de Lee Kwang-kung. Non pas à cause de son premier film, Romance Joe, que je n'avais pas vu, mais surtout parce qu'il a été l'assistant réalisateur de Hong Sang-soo pendant des années. Donc c'est forcément quelqu'un de bien et d'intéressant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve demain pour notre dernier podcast de Zool. D'ici là, see you, Space Cowboys.
Salut.
Salut.